Je vais étudier une figure particulière du cinéma de Desplechin en résonance avec celui de Truffaut et Bergman. Et c'est ce que j'appellerais la figure du regard épistolaire, hein, ce qui prouverait que l'écrit est incarné chez Desplechin par un corps qui regarde, qui nous regarde. Dans les années 80, ou à la fin des années 70, Desplechin a 20 ans à peu près. Et il n'aime pas le cinéma français, il n'aime pas le cinéma de la génération de l'après-Nouvelle Vague, il préfère le renouveau du cinéma américain, hein, comme il le dit dans cet extrait d'un entretien. Et ce n'est qu'à 25 ans, c'est-à-dire au milieu des années 80, qu'il va redécouvrir les films de Truffaut. Pour lui, avant 85, Truffaut, c'est le cinéma des parents, de ses parents. Et ce n'est qu'à 25 ans qu'il va redécouvrir la filmographie de Truffaut et qui va en et il affirme que ce sont ces films qui lui ont permis de devenir cinéaste. Et il y a une autre référence, donc c'est Bergman qui a joué un rôle important, on le sait, pour les jeunes critiques de la future Nouvelle Vague. Bergman peut être considéré comme un des pères de la Nouvelle Vague. Alors le choc éprouvé par Desplechin face à Truffaut, il le dit dans l'entretien qui est à l'écran. Il dit, j'ai redécouvert les films de Truffaut et j'ai été frappé par leur inventivité formelle ainsi que leur goût du romanesque. Et effectivement, ce qui l'intéresse aussi chez Bergman et en particulier avec un film comme Monica, c'est le goût à la fois moderne et classique pour les trucs de cinéma muet. Et Desplechin emploie une formule qu'emploie Godard dans son article dans la revue Art sur Monica, où il dit que Bergman utilise des trucs démodés, des cadrages qui rappellent le cinéma muet. Mais ce que dit Godard, c'est que ces éléments formels utilisés par Bergman ne sont jamais gratuits, mais qu'ils servent à exprimer des sentiments de personnages. Donc toujours l'alliance du sentiment et du formalisme, du romanesque et de l'avant-garde. Et alors, Godard ne cite pas le fameux regard caméra qui est présent dans Monica, mais on sait que l'éclairage de ce regard caméra dans Monica fait que ça ressemble aussi à ces prouesses de chef opérateur dont parle Godard. Et c'est sans doute à ce procédé du regard caméra que pense Desplechin quand il dit aimer et s'inspirer des trucs de Monica. Donc ce qu'aime Desplechin chez Truffaut et Bergman, c'est l'alliance du formalisme et du sentiment. Et c'est, me semble-t-il, cette alliance qui justifie l'emploi récurrent de cette figure du regard épistolaire, qui est un instrument puissant du romanesque et en même temps une figure formelle. Entre Comment je me suis disputé et Roubaix une lumière, Desplechin va utiliser cette figure au moins une fois dans chaque film, à l'exception de deux films, Léo en jouant dans La Compagnie des hommes et Les fantômes d'Ismaël, qui contiennent des regards caméra, mais pas des regards épistolaires, c'est-à-dire des regards qui oralisent une lettre. Alors pourquoi recourir à cette figure pour Desplechin? C'est pas comment ça se fait qu'il revient à cette figure, qu'il la retravaille sans cesse? S'agit-il seulement d'un hommage à ses maîtres? S'agit-il d'estampiller son film, de lui apposer un sceau qui certifierait sa filiation à la Nouvelle Vague? Quel bienfait au-delà trouve-t-il pour l'employer dans chaque film? N'y a-t-il pas le risque d'une répétition, que ça devienne un truc un peu lassant? Donc nous devrons nous demander comment Desplechin s'approprie cette figure et la renouvelle avec ses propres moyens. Alors, ce que je voudrais demander, ce que je voudrais tout d'abord montrer ou interroger, c'est le caractère simple de cette forme. Desplechin admire l'évidence de la mise en scène chez Truffaut. Il dit que Truffaut trouve toujours la manière la plus simple de dire ce qu'il a à dire. Et c'est cette apparente simplicité, efficacité du regard épistolaire qui plaît à Desplechin. Elle permet de rendre spectaculaire la révélation de l'intériorité d'un personnage. L'écrit devient oral, le mot devient voix, l'adresse devient regard, le style devient corps, avec une économie de moyens, et dans un temps réduit, le regard épistolaire permet au personnage d'acquérir une présence et une épaisseur insoupçonnées. Alors je vais vous montrer un extrait de trois souvenirs de ma jeunesse pour montrer cette efficacité du regard épistolaire.
Paul chéri, comme tu me manquais, j'ai été dormir chez toi. Ton père n'était pas là, ta sœur m'a accueilli à contre-cœur. J'en avais rien à foutre. Le lit de ton père est un vrai merdier. L'autre soir, j'ai mangé une pêche et je m'essuyais les doigts sur les draps. J'imaginais ton père frappé d'un infarctus devant le tableau de cette fille qu'il méprise et qui se vautre dans son lit. Enfin qu'il aille en paix. Je me soucie autant de lui que lui de moi. Tu m'appelles de la même cabine ?
Non, je suis près du Luxembourg.
Qu'est-ce que tu vois ?
Un trottoir brillant de pluie.
Une porte cochère avec des chasse-roues en pierre.
Il y a des bassins aussi.
J'arrive pas à t'imaginer.
En face, il y a un arrêt de bus désert et le café où j'ai laissé mes affaires.
Ça va, ma chérie? Oui, c'est Paul. Oui. Dis-moi quand tu vas rentrer. Si je connaissais la date, je pourrais compter les jours.
J'ai pas d'argent pour le billet.
Mais moi, je t'en donnerai de l'argent.
Esther, je veux pas de ton argent.
Pourquoi tu fais pas du stop?
Je veux plus faire de stop.
J'en ai marre des PD pathétiques qui s'arrêtent parce que j'ai 19 ans.
La cinquième fois qu'un type te sort sa bite, ça fatigue.
Esther, je viens de raccrocher et voilà que je me surprends à t'écrire. Quand nous reverrons-nous? Je ne peux accepter l'idée que mes incertitudes t'empoisonnent. Je voudrais que tu puisses t'accrocher à moi. Le voudrais-je? Je ne sais pas, cela m'effraie. Je pense que tu voudrais t'accrocher à moi et je me blâme de n'être pas assez solide. En écrivant, je pense solide imbécile. J'ai eu tellement peur d'être un imbécile que je ne me suis jamais occupé de ma solidité. Je me haïrais tout autant d'être frêle. Frêle, je ne le suis pas. Mais ma solidité, je ne peux te l'offrir, je la dois à moi-même. À toi, je ne peux offrir que ma légèreté. Comment j'admire chacun de tes sourires ou de tes rebuffades. Et je mesure combien c'est offrir peu. Tu me fais rigoler. Que tu sois furieuse ou désagréable ou exquise, tu me fais rigoler. Je ne sais t'aimer qu'avec légèreté, et pourtant je suis un type si lourd. Sinistre, t'étais-tu moqué à la soirée? Tu avais raison. Je ne veux pas que tu m'attendes. Tu ne dois pas compter sur moi. Ma vie est beaucoup trop austère pour cela. Paul.
Hé, Paul, n'aie pas peur. Tes remords te préoccupent trop, je suis plus simple que ça. Simplement, je suis heureuse quand je te vois.
Alors, on remarque que les lettres dont qu'on nous propose ici dans cet extrait n'ont pas de fonction narrative proéminente, comme peuvent l'avoir la lettre au cinéma. La lettre est surtout un miroir de l'âme de l'épistolier, pour reprendre un topos venu de l'Antiquité. Et cette lettre miroir s'allie avec évidence au regard de l'épistolier, en particulier d'Esther, dans ce passage. Or, pour Cicéron dans De l'orateur, le visage est le miroir de l'âme et les yeux en sont les interprètes. Et c'est un topos, d'ailleurs. Desplechin utilise cette figure pour son évidence, sa simplicité. La lettre occupe donc ici la fonction d'un autoportrait des épistoliers. Par le ton de leur lettre, s'opposent entre Paul et Esther deux caractères, l'un réflexif et lyrique. Esther dira qu'il est obscur, Paul. L'autre, insolente, exprimant ses sentiments à fleur de peau, espiègle, concrète, désinvolte, sensuelle, négligée. Elle mange une pêche sur le lit du père de Paul et s'essuie sur les draps. Le regard épistolaire a lieu au moment où elle prononce un mot grossier, le mot merdier, et est vautrée sur le lit du père. Il y a quelque chose d'ambigu qui éclate. Esther apparaît sacrilège. Elle imagine le père en proie à un infarctus. Mais dans un mélange indistinct d'innocence et d'insolence qui la rend à la fois attirante et repoussante. Lui, Paul, emploie un langage soutenu, il s'apostrophe lui-même en se qualifiant de solide imbécile, Il se pose une question à lui-même, le voudrais-je? Donc il a un dialogue intérieur qu'il livre à Esther. Il utilise un langage abstrait, voire précieux. Il inverse le sujet de son interrogative. Il emploie du langage soutenu comme se blâmer, rebuffade. Bref, c'est le portrait d'un étudiant à l'opposé d'Esther, un étudiant sérieux en sciences humaines qui lit beaucoup. Il se livre à une auto-analyse, il sonde son cœur de manière réflexive, tout le contraire de la spontanéité d'Esther. Et à la place du regard épistolaire d'Esther, Desplechin filme la lettre de Paul, les traits symboliques de l'écrit, et il n'y a pas coïncidence entre la voix, hormis à la fin du passage, entre la voix qui dit la lettre, qui reste off, et le corps de Paul qui va se raser. Donc il y a une disjonction de l'écrit réflexif chez Paul qu'il n'y a pas chez Esther. Il filme aussi Paul en train de se raser, donc il est montré comme quelqu'un qui est en train d'acquérir une maturité, là où Esther frappe par une espièglerie juvénile. Puis on le voit assis dans les toilettes, dans la salle de bain, dans une position où il semble réfléchir. Mais finalement, à la fin du passage, le corps et la voix coïncident, même s'il n'y a pas pour Paul un vrai regard caméra, mais je dirais un regard vers la caméra. Il dit « tu me fais rigoler ». Il parvient à vaincre sa morosité et ses regrets d'avoir peu à offrir à Esther. Et donc, malgré les différences, à la fin du passage, la complicité entre les deux jeunes amants est affirmée. Les lettres révèlent donc les personnalités mieux que l'attitude de chacun dans la vie ordinaire. Le regard épistolaire, par l'adresse à la caméra et la vocalisation de la lettre, donne une impression d'immédiateté de la communication, alors que la lettre est en réalité une communication différée et à distance. En s'adressant à la caméra, le regard épistolaire renvoie au hors-champ qui crée un espace-temps virtuel. Malgré les différences entre les deux amoureux, la lettre met en œuvre ce que Paul appelle une utopie épistolaire, la fameuse Arcadie que représente leur amour. Il s'agit de construire un espace-temps qui, au-delà de celui du récit, est chargé d'exprimer et de donner ce qu'Esther appelle une consistance au lien entre deux êtres dissemblables, de figurer une communication idéale. Le regard épistolaire permet de restituer la puissance poétique de communication, de la communication épistolaire qui embellit toujours, idéalise la relation et le correspondant. Alors au cœur de ce passage, il y a une communication téléphonique qui fonctionne en contraste avec les lettres qui nous sont proposées. Ici, la communication téléphonique a une fonction narrative. Par le biais du téléphone sont relatés des événements qui vont faire progresser le récit, puisque le refus de Paul de faire de l'autostop va entraîner une séparation prolongée du couple. Et cette conversation est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus triviale que ce que dit Paul dans sa lettre. Alors, je vais maintenant vous passer un extrait des deux Anglaises et le continent, où on va voir comment l'émotion est créée de manière simple et intense par le regard épistolaire.
Mon Claude, je suis arrivée hier à la maison. Ceci est un morceau de papier peint dans notre chambre. Mère et Muriel sont au lit. J'ai pleuré. Tu es plus frais que ma sculpture. J'ai senti des lèvres sur la mienne hier, mercredi après-midi à 4 heures. Rappelle-toi, tu pensais peut-être à moi. Quand je vois mon visage dans la glace, j'ai des regrets de ne pas te donner mieux. Muriel sait que nous nous voyons à Paris, c'est tout. Je sais qu'il y a d'autres femmes dans ta vie, mais je ne suis pas jalouse.
Donc un extrait, on voit tout de suite qu'il y a chez Desplechin, dans la manière de broder sur la figure, il y a une complexification de la figure, alors qu'ici il y a une alternance entre les plans sur Jean-Pierre Léo qui lit la lettre et les plans du regard épistolaire avec ce mouvement de caméra qui s'approche de l'actrice comme pour capturer son regard et son émotion. Hein elle dit, donc le personnage... féminin dit « je te vois mieux que ma sculpture ». Donc la lettre crée là aussi un espace-temps utopique, plus puissant, moins artificiel que la réalité et que l'art, c'est-à-dire la sculpture et la peinture et les livres qu'on voit derrière Claude. Hein ? Chez Desplechin, on n'est pas dans cette simplicité, on est dans une esthétique de la variation qui a quelque chose de plus virtuose et de plus complexe, de plus, qui cherche plutôt que la simplicité une espèce de profondeur dans l'analyse que Paul fait de lui-même. Alors au-delà d'une forme simple, ce que je vais montrer maintenant, c'est que c'est une forme frontale, le regard épistolaire. Ce serait peut-être plus préférable au terme de simplicité. Au lieu d'utiliser le découpage qui montre deux espaces séparés, celui de l'épistolier et celui du lecteur de la lettre, le regard épistolaire est dirigé vers le hors-champ où se trouve la caméra, c'est-à-dire un espace qui n'est que virtuellement présent à l'écran. La séparation n'est donc pas actualisée. Le regard caméra permet de nous positionner comme destinataire de la lettre et de redoubler ainsi l'intensité du discours épistolaire. C'est ça la frontalité, au-delà de la simplicité, du regard épistolaire. Alors je vais montrer un extrait d'un film de Bergman qui me semble avoir influencé de manière subreptice Desplechin. C'est un extrait des Communiants. Alors, je ne vais pas passer la lettre en entier parce que ça prendrait trop de temps. Je vais passer simplement la fin du regard épistolaire. Et donc, le personnage féminin déclare son amour au prêtre. Il y a quelque chose de frontal, de presque obscène même, dans cette déclaration. Elle se met à nu complètement sous nos yeux, jusqu'au malaise. Elle parle notamment, c'est quelque chose qui apparaît avant l'extrait que vous allez voir, elle parle de son eczéma, du fait qu'elle arrache ses croûtes, donc elle se met à nu, donc c'est la frontalité jusqu'au malaise, c'est ce qu'on va voir maintenant.
Så kan alltså en skolfrökens tankar röra sig ensamhet på kvällen, när telefonen tiger och det är mörkt och ensamt. Vad som fattas mig helt och hållet är förmågan att visa min kärlek. Jag vet inte alls hur jag ska bära emot. Jag har funderat på att be en bön till. Så bedrövlig har jag varit. Men lite självkänsla och begrepp om det passande har jag ju behållit trots allt. Käraste Thomas. Det blev ett långt brev där. Men jag har nu skrivit det som jag inte vågar säga, ens när du är i min famn. Jag älskar dig. Och jag lever för dig. Ta mig och använd mig. Innanför all falsk stolthet och spelad självständighet har jag bara en önskan. Att få leva för någon. Det blir hemskt svårt. När jag tänker efter så begriper jag inte hur det här ska gå till. Kanske är det fel alltihop. Säg att det inte är fel. Älskade.
Alors. Donc là, la lettre est entièrement, chez Bergman, la lettre est entièrement oralisée, face caméra, sauf lorsque Martha, on n'a pas vu l'extrait, mais raconte en image avoir prié Dieu de la sauver. Donc le discours de vérité se diffuse en continu, et la phrase « j'ai écrit ce que je n'ose vous dire » sonne comme un paradoxe, puisque la lettre est bien oralisée, l'écriture se fait parole, ce qui rend les aveux de Martha encore plus déchirants. S'il y a miroir ici, c'est dans son sens médiéval de miroir de perfection, c'est-à-dire speculum perfectionis. Martha est un miroir au sens moral. Elle est un modèle parce qu'elle a le courage de dire la vérité et parce qu'elle invite donc Thomas à dire lui aussi la vérité, à sortir du dégoût qu'il a semblé manifester vis-à-vis du corps de Martha et que lui aussi ose déclarer ses sentiments. Ce qu'il y a de malaisant dans le passage, c'est qu'elle se positionne jusqu'à l'indignité de la chose. Elle dit « usez de moi ». Elle dit « je ne sais pas comment m'y prendre pour l'atteindre, Thomas ». Donc la fragilité de l'actrice s'expose à l'œil de la caméra. Et pour pas venir à toucher Thomas, le seul moyen de Martha consiste à se mettre à nu et à attendre que lui-même en fasse autant. Elle s'épanche totalement, d'une manière indécente, et cet abandon frontal produit une forme de malaise. Et d'ailleurs, on sent que Thomas va lui opposer une fin de non-recevoir. Alors, je vais passer... il me reste combien de temps ?
23 minutes 42.
Bon, je vais passer quand même les deux anglaises, où il y a un moment frontal, c'est le moment où Muriel avoue qu'elle se masturbe. Je vais passer l'extrait quand même. Je ne passerai pas Rois et Reines, parce que donc Desplechin, me semble-t-il, dans Rois et Reines, l'extrait qu'on a vu tout à l'heure de la lettre du père à Nora, me semble là aussi participer d'une forme de frontalité. Mais je préfère passer Truffaut ici. Voilà.
Ce fut une nuit de caresses de deux petites filles, l'une décidée, l'autre docile. Clarisse m'apprit qu'elle était agréable de toucher certaines parties de nos corps, une surtout. Elle me persuada que c'était notre secret et qu'il ne fallait pas en parler. Quand Clarisse en alla, je continuais parfois seule en regrettant son absence. Je ne savais pas à quoi servait cette partie de moi. Je savais seulement qu'elle était privée, ne devait être vue par personne et que je ne devais en parler à personne. L'habitude me laissait tranquille tout un temps, puis revenait. Je succombais alors, parfois avec rage plusieurs fois de suite. Vers mes 17 ans, je me rappelle un chaud dimanche, étendue sur le dos dans la campagne, en regardant le ciel bleu. Je succombais soudain, poussée par je ne sais quelle force. Parfois, je considérais la chose comme un moyen pratique de m'endormir vite et de réchauffer mes pieds froids, mais je haïssais pourtant de lui être soumise. Le plus souvent, je livrais bataille, je tordais mes mains, j'enfonçais mon visage dans l'oreiller, je suppliais Dieu. Si je ne réussissais pas à m'endormir ou à me passionner pour autre chose, je succombais à nouveau et je m'interdisais de prier après. Voici la copie d'une lettre de secours que j'ai reçue d'Amérique et qui m'a fait du bien. Ma chère jeune amie, votre appel à l'aide avait toute ma sympathie. Je sais bien où vous en êtes et je ne ressens aucune répugnance, mais au contraire de l'admiration pour votre franchise. Si vous commencez à succomber au milieu du sommeil, dites-vous, ce n'était pas moi. J'ai un tel mépris pour cet acte que même dormant, je me réveille, je saute de mon lit et je fais mes ablutions froides. Ne perdez pas votre temps à vous faire des reproches. Ayez une vie active tournée vers autrui. Cet usage nocif d'un de vos organes qui vous a été enseigné malgré vous va cesser. De tout cœur avec vous.
Alors la frontalité est ici intensifiée par... Là encore, comme tout à l'heure dans le premier extrait des deux anglaises, la caméra qui se rapproche, et là elle se rapproche tellement près que on ne voit plus la bouche oralisant la lettre, mais seulement les yeux, comme si les yeux avaient quelque chose à dire qui ne pouvait se dire et qui serait justement l'irreprésentable de l'aveu, la masturbation. Donc il y a quelque chose un rapprochement jusqu'à l'obscénité, et l'impudeur et la pudeur semblent réversibles ici dans ce regard caméra très très proche. Dans Rois et Reines, c'est vrai qu'il y a le stigmate de la lettre que porte Nora, mais le regard caméra de Maurice Garrel est entrecoupé par des moments qui sont postérieurs à la lecture, quand Nora a mis la lettre sur elle et rejoint l'autre personnage féminin. Et en fait, il y a des moments d'accalmie dans la frontalité de l'aveu de haine du père par les plans sur Nora qui est hébétée, qui semble ne pas avoir vraiment compris la lettre. Elle ne s'est pas remise de cette lettre, mais en même temps, on sent qu'elle n'a pas encore véritablement compris cette lettre. Et donc, c'est comme des moments de flottement où Nora n'est pas totalement consciente de ce qui s'est passé. Ce qui permet d'atténuer, en fait, la frontalité de l'aveu en regard caméra. J'aimerais montrer maintenant que le regard caméra est également une forme figurale. On a parlé déjà du figural tout à l'heure. Desplechin aime, chez Truffaut, ce qu'il appelle dans une interview les décalages et les petites transgressions. Or, le regard épistolaire est une forme d'agrammaticalité, puisque c'est un événement filmique qui fait effraction et infraction dans la fiction, puisque l'acteur laisse tomber sa persona et s'adresse directement au spectateur. Et c'est un événement filmique qui est marqué, me semble-t-il, par une opacité. Il transgresse sans représenter, sans faire sens. Le discours de la lettre s'abîme dans le regard qui nous est adressé. Celui-ci est à la fois une brèche qui fait éclater les limites des espaces et une tache qui opacifie la transparence de l'image du quatrième mur. Le regard épistolaire doit donc être interrogé non pas seulement sur le plan énonciatif, mais aussi dans sa dimension plastique. Il vient obstruer la surface de l'image autant que la trouer. Et on constate qu'à deux reprises, le regard caméra d'Esther dans « Trois souvenirs de ma jeunesse » est accompagné dans sa périphérie de taches blanches floues. Les fleurs de l'arbre qu'on a vu tout à l'heure dans la scène, dans la première scène de « Trois souvenirs de ma jeunesse », les fleurs de l'arbre dans la scène bucolique, et puis également les lettres éparpillées sur le sol, vues en plongée, qui viennent mettre à nu de manière parcellaire la surface de l'image. Ce qui permet d'abolir la profondeur fictionnelle de l'image et d'exhiber partiellement la matérialité de l'image. La frontalité devient un événement plastique et le regard épistolaire échappe finalement au discours en mobilisant le travail du désir du spectateur. On remarque que ces fleurs sont une référence aux deux Anglaises puisqu'il y a plusieurs scènes d'extérieur, c'est la première photo en haut, où figurent des genêts aux petites fleurs jaunes. Ce qui est remarquable aussi dans le regard épistolaire, c'est qu'il est marqué par une double énonciation et une double adresse qui rappelle le théâtre. Il y a une forme de théâtralité dans le regard épistolaire. L'épistolier parle à son destinataire, mais simultanément, il s'adresse au spectateur. Dans « Trois souvenirs de ma jeunesse », deux regards caméra font plus nettement effraction dans la fiction en étant dirigés exclusivement vers le public, puisque Paul est à ses côtés. C'est notamment un regard caméra qui a lieu pendant la première nuit d'amour entre Esther et Paul. Alors la position de Desplechin est flottante. Cette figure est un moyen pour lui de se projeter à la fois comme le destinataire de l'acteur, dont le regard garde la trace de sa relation avec le cinéaste, mais aussi comme énonciateur du film, qui se représente lui-même en un personnage fictionnel qui s'adresse au spectateur. Le regard épistolaire est donc miroir, encore une fois, car il est facteur de réflexivité. Il renvoie à la posture du cinéaste qui s'adresse à son public. Et là, je fais référence à un autre film de Bergman, qui est donc Sonate d'automne, où Liv Ullmann dit à sa mère, avec qui elle veut communiquer par lettre, « Il n'y a pas de limite ». Mais évidemment, elle lui dit également « Je n'abandonnerai pas, je ne renoncerai pas à nouer un échange avec toi ». Et évidemment, ces deux phrases résonnent de manière réflexive, comme le désir de Bergman de communiquer avec le spectateur. Il veut effacer les limites entre le film et l'univers du spectateur en disant « Je n'abandonnerai pas », il dit sa ténacité à créer. Et il me semble que dans l'extrait qui a été tout à l'heure montré de Roubaix une lumière, quand le personnage du policier dit son aspiration à la grâce, lorsqu'il dit « pitié est plus qu'on ne peut dire au cœur de l'amour », eh bien on entend Desplechin qui aspire lui-même à trouver de la grâce dans son film policier. Il dit sa foi dans le cinéma et aussi il dit son amour pour le père. Il écrit à un père religieux, mais évidemment c'est aussi un père de cinéma. Il me semble qu'il s'adresse aussi à ses pères de cinéma que sont Truffaut et Bergman. Alors j'aimerais montrer que Desplechin joue avec l'héritage, joue dans tous les sens du terme, au sens ludique, mais au sens du fait qu'il y a du jeu quand un bois travaille, c'est-à-dire on crée des écarts. Alors je voudrais m'appuyer sur un extrait de l'histoire d'Adèle H, où on sent que Adèle est en train de sombrer dans la folie, et il y a un regard caméra épistolaire où elle va s'adresser à son père, donc Victor Hugo.
Mes chers parents, je viens d'épouser le lieutenant Pinson. La cérémonie a eu lieu samedi, dans une église d'Halifax. J'ai besoin d'argent pour mon trousseau. 300 francs me seraient pour le moment indispensables, en plus de ma pension. Si vous faisiez éditer ma musique, comme je vous l'ai demandé 100 fois, cela me rapporterait de l'argent, et je n'aurais pas à me conduire comme une mendiante. Désormais, vous libellerez mon adresse ainsi. Madame Pinson, 33 North Street, Halifax, Nova Scotia. Je vous demande d'écrire le mot Madame en toutes lettres, bien visiblement, au-dessus de l'adresse. J'espère que cette grande nouvelle vous parviendra rapidement à Guernsey.
Donc ici, nous savons que Adèle ment, elle n'est pas mariée, donc elle s'aveugle sur sa passion amoureuse, et c'est ce que montre Truffaut. Elle projette la réalisation de son désir, elle confond réel et idéal, et Truffaut le montre grâce à la surimpression du visage sur la mer, qui spectralise le regard caméra. C'est un voile qui permet de signaler que son discours ne reflète pas la vérité. Et son regard se transforme en eau. Adèle est en train de se noyer, de basculer dans le destin mortifère, dans la spirale du mensonge, et le regard s'efface, et l'eau de noyade devient eau de transport. Adèle n'a plus d'existence que virtuelle dans l'utopie de sa lettre. Adèle n'est plus que la trajectoire de sa lettre sur la mer et sur la carte. Alors la réponse, une des réponses de Desplechin à cette scène, ça va être dans un téléfilm qui s'appelle La Forêt. Je vais passer sur Esther Kahn parce que j'aurai pas le temps. Où là, Desplechin répond à Truffaut en proposant un regard véritablement mensonger. Donc La Forêt, c'est une adaptation pour Arte et pour la Comédie française de la pièce du Russe Alexandre Ostrovski. Et on est au début du film et donc Michel Villermoz envoie une lettre à sa tante.
Cette lettre, je l'ai toujours sur moi. Lisez, Evgeny Apollonitch.
Ma chère tante et bienfaitrice.
Ma chère tante et bienfaitrice, Raïssa Pavlovna.
Par cette ici présente lettre consacrée aux circonstances de la mienne vie, je vous écris avec douleur quant à mes manques, encore que non dans la désespérance. Oh, destinée! Sous le joug de ma propre inculture, avec la honte parmi mes camarades, je prévois de l'insuccès dans ma carrière.
Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de très flatteur pour vous là-dedans.
Écoutez la suite.
Mais je n'aurai pas peur.
Mais je n'ai pas
peur. J'ai devant moi la gloire.
J'ai devant moi la gloire.
La gloire. Quoique votre maigre monde m'ait plus d'une fois poussé au bord de la misère et de la ruine, cependant, je baise votre bonne main. Les jeunes années de mon enfance jusqu'à cet âge dit de la maturité, je fus dans l'inconnu quant à mes prédestinations. Mais à présent, tout s'ouvre devant moi.
C'est un très beau style. Moi, je vois là un sentiment non fin.
Alors évidemment, la tante s'illusionne complètement sur le beau style de cette lettre, puisqu'en fait, son neveu veut qu'elle lui donne de l'argent, elle est avare, elle refusera de lui donner de l'argent, mais en fait, sous couvert de cette lettre empreinte de rhétorique et de beau style, il en a uniquement pour son argent, et la vie qu'il mène est au bord de la clochardisation, il est un comédien raté, qui ne réussit rien, et donc il cache cette mauvaise condition sous le beau style de sa lettre. Desplechin demande à Michel Villermoz de jouer cette duplicité de manière très théâtrale et artificielle. Et donc, ici, Desplechin s'amuse avec la figure du regard épistolaire en faisant un instrument de duplicité et de mensonge stratège. Il utilise le procédé donc, de Truffaut et de Bergman de manière amusée et critique. Alors, je vais faire un petit détour américain, parce que dans la dernière partie de ma communication, je vais montrer quelque chose à partir de l'autre cinéphilie de Desplechin, à savoir le rapport au cinéma américain, et notamment à De Palma. En fait, à la fin des années 70, pour Desplechin, ce qui compte, c'est le cinéma de Scorsese, de Coppola et de De Palma. Et il raconte dans une interview aux Inrecuptibles qu'en fait, il a fait découvrir à Douchet De Palma et que De Palma a regardé tous les films de De Palma dans le week-end et a fait un cours le lundi matin. Et donc, ce que je voudrais montrer, c'est que l'attitude de Desplechin par rapport à Truffaut et Bergman, c'est un petit peu l'attitude de De Palma par rapport à Hitchcock. C'est ce que je vais montrer maintenant. Alors, on peut dire que Desplechin pratique souvent ce que Nicole Brenet appelle une étude visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étude visuelle ? Et c'est, l'étude visuelle, c'est au centre de ce qu'on peut appeler le cinéma maniériste. Il s'agit d'une rencontre frontale, d'un face-à-face entre une image déjà faite et un projet figuratif qui se consacre à l'observer, autrement dit, d'une étude d'image par les moyens de l'image elle-même. Donc, par moment, l'héritage se transforme en analyse du cinéma de ses prédécesseurs. Donc, je vais montrer deux scènes de miroir. Alors, évidemment, j'ai parlé de réflexivité, de miroir depuis le début. Ce n'est pas anodin si Desplechin choisit de réécrire une scène truffaldienne de miroir. Donc, c'est une scène des deux Anglaises et le continent.
Illusions.
Alors, il n'y a pas les sous-titres. Je suis désolé.
Firstly, with mother. Try to avoid discussions and arguments and show her more affection. Secondly, with my sister, I won't be jealous. Thirdly, with Claude, I won't make him think I am better than I am. Lastly, I mustn't tire my eyes.
Donc chez Truffaut, le miroir représente chez Muriel la volonté de faire face à sa conscience, la volonté d'un dialogue actif avec son moi idéal. Elle se fixe un programme à suivre avec discipline. Elle aspire à une transparence dans sa relation avec Claude, puisqu'elle ne veut pas lui donner d'opinion d'elle-même meilleure qu'elle-même. Elle ne regarde le miroir que quand il est question de Claude, le personnage de Jean-Pierre Léo, mais elle ne s'adresse pas à lui. Son regard au miroir n'est pas un regard caméra. Ici, c'est un extrait de son journal, mais par son désir de transparence, elle aspire à se confier par lettre. Le miroir est donc présenté comme un instrument de vérité, mais qui reste virtuel. Elle exprime un désir de transparence qui n'est pas encore réalisé. D'ailleurs, elle dit qu'elle doit ménager ses yeux. Elle n'est pas encore prête à regarder Claude et elle-même en face. Alors voici comment Desplechin relie.
Merci. Je peux prendre du café, madame.
Oui, serre-toi.
Merci.
Paul, aujourd'hui lundi, je me suis suffi à moi-même. Je sais trop que tu n'es plus là. Je suis allée chez toi hier, ta sœur est toujours aussi conne. Quand tu n'es pas là, les gens me méprisent. Impression d'être anonyme, de n'avoir rien à dire, de n'avoir rien à faire avec eux. J'ai fini par m'énerver, ils ont cru que c'était dû à mon agressivité naturelle. Je les étonne toujours.
Donc chez Desplechin, on remarque qu'Esther regarde la caméra, cette fois-ci, elle s'adresse à Paul, elle réalise ce qui n'était que virtuel dans la scène des deux Anglaises. Si Desplechin choisit donc de réécrire cette scène, c'est parce que le miroir a une dimension réflexive, l'image spéculaire est une reproduction, c'est une variation optique de l'imitation, or Desplechin imite Truffaut. Surtout, Esther finit à la fin du passage par sortir du cadre formé par le miroir et se retourner vers la caméra pour parler à Paul sans la médiation du miroir et de l'écrit. Donc Desplechin étudie et commente le désir de transparence de Muriel en montrant que ce désir ne peut se réaliser qu'au prix du sacrifice de la spécularité. Desplechin se définit parfois comme un interprète au sens d'une analyse subjective du réel. Il imite Truffaut, mais pour l'interpréter, se l'approprier de manière personnelle et au final s'en écarter comme Esther s'écarte et se libère du miroir et de son image réflexive. Alors je voudrais, pour terminer ma démonstration, ou mes hypothèses plutôt, m'appuyer sur un extrait d'un film de De Palma qui s'appelle Obsession, qui se passe dans une... Donc c'est une restauratrice qui est confrontée à un dilemme. Voici ce qu'elle dit. « Voyez-vous, il y a quelques années, après les inondations, l'humidité s'est infiltrée dans une partie du retable. Il a commencé à s'écailler, révélant un tableau plus ancien sous sa surface. Les experts en histoire de l'art ont dû prendre une décision. Devait-il détruire le grand tableau de Dadi pour découvrir une ébauche grossière sous sa surface, ou devait-il restaurer l'original sans jamais savoir ce qu'il recouvrait ? Qu'auriez-vous fait ?» Donc, ici, De Palma théorise le maniérisme, sans le nommer ainsi, bien sûr. Il s'interroge sur le rapport entre la copie et l'œuvre originale. Soit on fait le pari d'une œuvre qu'on ne voit pas encore et qui serait géniale, soit on décide de restaurer l'original qui est en surface. Alors, De Palma dit qu'effectivement, il y a l'image d'Hitchcock qui est là, imparable. Desplechin constate aussi la présence entêtante de Truffaut et de Bergman. Mais si on prend la peine de gratter dessous, de faire apparaître la surface de l'image, on va tomber sur les tableaux, sur les films de Desplechin. Et dans son rapport à Truffaut, Desplechin est tiraillé entre déférence et différence. On peut affirmer qu'il tend à une relation maniériste à la nouvelle vague, dans la mesure où le maniérisme est une forme de schizographie, selon le terme de Claude Gilbert Dubois, qui a écrit un livre qui a fait date sur le maniérisme au PUF en 79. Desplechin semble vouloir faire une modeste étude visuelle des scènes de Truffaut, mais au final, son regard critique lui fait s'approprier les figures du modèle. Il affirme souvent se sentir inférieur à Truffaut, semblant broder sur une trouvaille stylistique magistrale, mais il hyperbolise sa réécriture pour faire mieux que son maître. Il s'agit de faire en sorte que la copie fasse mieux et remplace l'original comme dans le film de De Palma, il s'agit de gratter l'original pour laisser apparaître la peinture qui est en dessous de l'original. Il convient donc de renverser le rapport père-fils ou maître-élève. Tout à l'heure, il était question d'un père qui devenait le fils de son fils dans un conte de Noël. Et le conte de Noël raconte aussi l'histoire d'un fils qui, entré dans une relation d'amour-haine avec sa mère, finit par lui donner un supplément de vie grâce à une grève de moelle. Dans Léo, en jouant dans la compagnie des hommes, c'est l'histoire d'un rapport difficile à l'autorité du père que le héros manque d'assassiner. Et comme écrit Julie Wolkenstein dans un article sur la lettre palimpseste chez Desplechin, dans la mesure où le cinéma de Desplechin est hanté par les figures de père, on peut se demander si la lettre étrange du père dans Rois et Reines ne contient pas une part de réflexivité et ne concerne pas les relations problématiques du créateur avec la tradition dont il hérite. Alors je terminerai par deux extraits qui vont montrer ce désir de remplacer le père de cinéma, en essayant de faire mieux, avec un extrait des deux Anglaises et un extrait fameux de « Comment je me suis disputé ».
Claude, on m'a dit que tu étais en Angleterre. Et si c'était dans notre ville, et si c'était dans cette rue, j'ai peur de te rencontrer. Et pourtant mes yeux cherchent pour te voir. Claude, mon ami, est-ce que je t'aime? Mais non. Si je te rencontrais, je te dirais, vous n'êtes pas un mari pour moi. Tu ne m'as jamais vraiment fait la cour. Tu t'es arrangé pour que je sois forcée de t'aimer. Voilà tout. Au revoir, Claude. Claude, je ne t'aime pas.
J'ai peut-être tout de suite passé l'extrait de « Comment je me suis disputé ».
Cher Paul chéri, je viens de lire Peer Gynt dont tu m'avais souvent parlé. Comme je ne travaille pas beaucoup, tu vois, j'ai le temps de me mettre à lire. Les livres que je lis me bouleversent parfois si fort que ça me prend du temps à les lire. Là encore, j'ai fini la pièce d'Ibsen en larmes. Heureusement que tu n'étais pas là, je t'aurais exaspérée. Mais je suis comme ça. Comme je pleurais, je suis sortie marcher dans la rue pour me calmer, puis je me suis arrêtée pour t'écrire ce mot. Paul, tu n'es pas là. Mais souvent, il me semble que ton absence me chuchote dans le creux de l'oreille. Ça me tient compagnie. Et ton absence me demande, Esther, où est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai été vraiment moi, moi-même, celui que je suis vraiment? Paul,
Je suis tellement perdue que je n'arrive plus à me retrouver. Et moi, dans ma tête, je pense. C'est facile. Tu étais et tu es encore dans ma foi, dans mon espoir et dans mon amour. Et ton absence me demande encore. Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que tu peux me pardonner? Et dans ma tête, moi, je te réponds. Tu as fait de ma vie un enchantement. Et ton absence me demande. Cache-moi, protège-moi. Et comme Solveig, je te réponds. Dors, mon tout petit, dors. Toute la longue journée de la vie, nous l'avons passée à jouer, à courir, à chanter ensemble. Maintenant, mon enfant a besoin de se reposer. Alors ferme les yeux, mon petit gars, mon fiancé, mon amour. N'aie pas peur, ne crains rien parce que je veille sur toi. Alors, ton absence s'endort contre mon esprit. Je te protège, je pense à toi, je t'embrasse, Esther.
Donc on peut considérer que la lettre de rupture d'Esther, c'est une lettre de rupture en fait, après coup, est une étude visuelle donc de la scène précédente. Esther comme Muriel verbalisent leurs lettres en marchant dans la rue, et Desplechin analyse la scène de Truffaut comme l'illustration d'un axiome. Les plus belles lettres de rupture sont les plus belles lettres d'amour. Mais on remarque qu'Esther se déplace de la droite vers la gauche, c'est-à-dire en sens inverse de Muriel. Desplechin veut inverser, dépasser le sens de la scène truffaldienne. Muriel a peur de rencontrer partout Claude, mais ses yeux le cherchent. Desplechin lit la scène comme l'expérience par Muriel d'une présence-absence de Claude. Il fait alors, Desplechin, renverser l'absence de Paul pour Esther en personnifiant cette absence comme une présence qui l'accompagne. L'absence devient un personnage. Esther n'est plus aveugle comme Muriel qui refoule son amour. Elle est consciente que sa rupture est un aveu euphorique d'amour. La lettre se prolonge au-delà de la rue, donc dans ce café. Et donc Desplechin synthétise en une séquence deux réminiscences truffaldiennes. Il ajoute à la scène dans la rue un regard épistolaire pour donner encore plus d'intensité. Faire suivre la scène dans la rue d'un regard caméra permet surtout de démentir l'hypothèse dysphorique d'une folie du personnage qui semble affleurer dans l'extrait de Truffaut. Dans la seconde partie, l'adresse d'Aster est orientée vers la caméra. Elle ne parle plus toute seule avec un regard perdu. Elle se projette dans un destinataire identifiable, le cinéaste, le spectateur ou le personnage fictionnel de Paul. Donc le but du cinéaste est d'actualiser dans toute sa puissance ce qui n'était que virtuel dans les deux anglaises. La dénégation de Muriel se faisait à l'air libre, mais sa parole semblait se produire malgré elle, comme si elle était repliée sur elle-même, centrée sur son intériorité et ne voyant pas qu'elle était en extérieur. Donc on pouvait penser que le refoulement de l'amour qu'elle manifestait la menaçait de folie. Chez Desplechin, la dénégation devient une clameur qui extériorise. La frustration devient un accomplissement. Alors que Muriel termine la scène par une phrase négative, « Je ne t'aime pas », Esther conclut par une suite d'énoncés performatifs dont les mots ont valeur non seulement d'affirmation, mais d'action par la lettre. « Je te protège, je pense à toi, je t'embrasse ». Desplechin pratique ici ce que Claude Gilbert Dubois appelle à propos du maniérisme une esthétique du renchérissement. Desplechin veut parachever le motif de Truffaut, lui donner une forme plus aboutie et ainsi inverser le rapport de filiation. D'ailleurs, Desplechin pratique l'ornementation et la complication en ajoutant à l'influence de Truffaut une autre référence en trompe-l'œil, celle de Peer Gynt d'Ibsen. Claude Gilbert Dubois oppose la manière et la matière, à la matière. Le maître est matiériste, il a quelque chose d'essentiel à dire. Truffaut veut montrer la complexité, la personnalité torturée du personnage de Muriel. Le maniériste, affirme-t-il d'une manière assez radicale, n'a rien à dire, sauf la manière de dire ce rien. Ce qui compte, ce n'est pas l'aveu qu'Esther doit formuler, ce qu'elle a à dire, c'est la manière déterminée de clamer son amour alors que leur histoire est terminée. Mieux, l'exhibition d'Esther reflète l'attitude de Desplechin lui-même. La scène a pour contenu principal l'affirmation de soi en imitant Truffaut et en s'écartant de lui. Pour conclure, Je dirais que le rapport de Desplechin à la nouvelle vague consiste à faire miroiter des virtualités. C'est dans ce jeu qu'il est maniériste, si l'on suit la définition que donne Danet dans Le salaire du zappeur. Le maniérisme, c'est l'autonomie de la manière, dit Danet, par rapport à la matière. C'est l'image en état d'apesanteur. Or, certes, le regard épistolaire transforme l'écrit de la lettre en voix concrète et en regard perçant, mais plusieurs regards épistolaires, comme je le montre dans cette page du diaporama, plusieurs regards épistolaires se produisent sur un fond abstrait et monochrome, comme si la figure empruntée se suspendait hors de tout ancrage référentiel. L'épistolier acquiert un corps par le regard épistolaire, mais il reste en quelque sorte hors du monde, et la figure semble ainsi située dans un entre-deux, n'appartenir ni au film de Truffaut ou de Bergman, ni au monde fictionnel de Desplechin. Mais simultanément, par ce fond abstrait, Desplechin exhibe la figure, la détache, la revendique pour pouvoir la moduler, la faire varier, l'étudier, comme on dit d'un croquis sans décor, qu'il est une étude, de faire tourner la figure sans cesse pour qu'elle brille demi-feu. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci Philippe.